Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier audio d'avril. Un audio que je suis particulièrement heureuse d'enregistrer à l'extérieur. Alors j'espère que vous aurez en bruit de fond comme ça les petits oiseaux. C'est vraiment très très agréable. Et je vais vous parler aujourd'hui du thème principal en fait du conte de la mère de Clan d'Avril, qui est donc les rêves et les visions. On peut se demander, et de façon très très juste, si tous ces rêves, toutes ces visions ont une réalité. Souvent, ce qu'on va reprocher à des personnes qui travaillent justement avec des visions, c'est de se dire, c'est pas réel, c'est ton imagination, c'est ton imaginaire. Alors, j'aime beaucoup le mot imaginaire parce que c'est image in air, une image dans l'air. Et elle est autant réelle cette image qu'un film. Elle est autant réelle qu'une histoire, qu'un mythe, qu'une légende, qu'un conte. Tout simplement parce que c'est par rapport à tout ce que j'ai pu apprendre au niveau de la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung, c'est que justement il est fort probable que tous les contes, que toutes les histoires proviennent de rêves et de visions, et que leur pérennité est due au fait que ces thèmes rentrent en résonance avec le collectif, c'est-à-dire qu'ils rentrent en résonance avec beaucoup de personnes qui se l'ont approprié, qui l'ont raconté, et comme ça, les histoires et les contes traversent les siècles. Qu'en est-il dans leur réalité? Est-ce que du coup le monde réel est vraiment réel? Le monde des visions, l'est-il moins, etc. Ce sont des questions auxquelles on ne peut pas vraiment apporter de réponse parce que ça dépend vraiment de chacun, de ce que la réalité est et chacun. Il n'y a pas de choses non réelles et irréelles parce que finalement rien que nos visions, nos rêves peuvent prendre réalité, c'est pour ça qu'il y a aussi des rêves prémonitoires. Et c'est un petit peu difficile de séparer les deux entre réalité et irréel et imaginaire. Alors d'ailleurs, nous en tant qu'humains, nous sommes la seule espèce sur Terre qui est dotée de cette sphère mentale qui permet l'imaginaire. Comme le tarot ou bien bien d'autres religions ou philosophies, je pense à Pythagore là, comme tout ça va nous révéler, nous sommes en fait constitués de quatre corps, qu'ensuite les sciences qui étudient les énergies l'ont également vérifié. Donc nous sommes constitués de quatre corps, on va partir là-dessus. Le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le corps mental. Et nous sommes sur Terre les seuls justement à avoir ce quatrième corps, qui est du coup le corps mental, et qui nous permet de faire des visualisations justement et des projections aussi. Les animaux ne peuvent pas se projeter, car ils n'ont pas ce corps-là en fait, cette capacité. Eux, ils ont du coup le corps physique, le corps éthérique et le corps astral. C'est-à-dire que le corps astral, en fait, c'est le corps émotionnel. Et l'animal va agir par ses émotions, mais toujours au présent. Ce qu'il va ressentir au moment où il le ressent. Ce qui n'est pas ce que nous pouvons faire, nous. Nous sommes capables de ressentir au présent ce qui se passe, mais on est également capable de ressentir ce qu'on va s'imaginer pour le futur ou ce qu'on va s'imaginer du passé, ce qui nous reste en mémoire. Ça, les chevaux ne le font pas. Ils vont pas, par exemple, penser au lendemain ou dans l'heure d'après ce qui va se passer ou où ils vont manger. Ils sont guidés totalement, tout le temps, par le présent et par les émotions au présent. Donc c'est très utile aussi de se rapprocher d'eux, de travailler avec, par exemple, l'esprit du cheval, hein, puisque je parle du cheval, parce qu'il nous ramène vraiment au présent et à l'émotion du présent. Et souvent, on emmène avec nous les bagages des émotions du passé, et on ressent une émotion qui appartient au passé. Et pour un cheval, c'est absolument impossible déjà, mais totalement illogique, parce que du coup, il faut se fier aux besoins que nous avons au moment actuel, au présent. Et pour identifier ce besoin, on passe par les émotions, parce que l'émotion va nous dire ce dont on a besoin. Et du coup, on grille totalement les pistes à ce moment-là, parce que on utilise une émotion d'un ancien besoin que nous n'avons pas maintenant. Donc ça, ce sont pour les animaux. Pour les plantes maintenant, elles n'ont que le corps physique et éthérique, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'émotions, de sentiments. Mais qu'elles ont par contre une très grande force de vie qui pulse à l'intérieur, hein, qui font jaillir les fleurs, les bourgeons, qui fait tourner la sève dans la plante. Et les plantes subissent de grands chamboulements dans leur corps physique avec cette énergie puissante, hein. Elles sont vraiment transformées au niveau physique. En ce qui concerne les roches, les cristaux et les pierres, tout ce monde minéral n'a qu'un corps physique, donc ils n'ont pas de sève ou de sang qui coule dans leur corps et ils n'ont pas d'émotion, bien entendu. Ce sont un petit peu finalement, alors j'aime bien cette expression, les témoins silencieux du temps. Donc nous, en tant qu'humains, sur cette terre, on a fait le tour de tout le monde, et ben on est vraiment, vraiment la seule espèce à être douée de cette imagination. Et cette imagination-là fait de nous, justement, des créateurs. Nous sommes les seules créatures créatrices sur Terre. Car les idées vont toujours commencer par une projection. Elles vont d'abord être projetées dans notre image in-air, dans notre image dans l'air. Alors, bien sûr, on est ici dans la peinture. On peut tout à fait s'imaginer qu'on voit une toile, une image et qu'on a envie de la reproduire. Et en tout cas, en peinture intuitive, c'est vrai aussi parce que n'importe comment, on va commencer par une idée. Même l'idée de peindre reste une idée. On va se projeter l'idée de peindre, puis nous allons nous organiser, nous structurer, faire en fait ce qu'il faut pour mettre en pratique cette projection du mental. Le corps mental est à la fois un récepteur, donc un capteur et un faiseur. Dans le sens où on capte une énergie, une idée, et ensuite on va mettre en place une stratégie, une structure pour pouvoir faire, pour aller dans le faire. Donc quelque part, notre mental est un mental est composé du coup d'une part féminine et d'une part masculine, comme tous les autres corps, donc émotionnels, physiques et énergétiques. Très bien. De nos jours, on va beaucoup beaucoup nous dire qu'il faut faire taire ce mental, comme si en fait, on est heureux de cette capacité que n'ont pas les autres règnes, les autres espèces, comme on l'a vu, et que en fait, on est tellement super heureux de cette nouvelle capacité qu'on donne tout. On peut le voir aussi au niveau des autres règnes, c'est-à-dire que le corps du minéral, c'est comme s'il donnait tout à ce corps. Il est dur, il est vraiment costaud et ouais, vraiment très très dense. Donc comme s'il avait tout mis, toute son énergie pour ce corps. Ensuite, les plantes, comme je le disais, elles sont vraiment pleines d'énergie, on peut les utiliser dans les huiles essentielles, etc. Et c'est comme si ce nouveau corps qu'elles avaient acquise, elles mettaient tout là-dedans, dans ce nouveau corors. Donc vraiment cette énergie qui coule, quoi, vraiment. Là on est en avril, j'ai refermé les trous parce que je fais de la récolte de la sève de bouleau. Et quand on voit ce qu'un tout petit trou peut nous permettre comme litre de récolte, c'est une force qui circule à l'intérieur qui est absolument prodigieuse, vraiment. Ensuite, les animaux, ben là je vais repasser au cheval parce que du coup, lui, il a ce nouveau corps qui est le corps émotionnel. Et les chevaux sont vraiment des animaux qui sont dans l'émotion tout le temps. Il faut tout le temps faire avec leurs émotions et avec les nôtres aussi parce qu'ils lisent les nôtres. Ce qui est très 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 intéressant quand justement on veut guérir de certains problèmes émotionnels. parce que du coup, c'est tout un autre domaine et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ils savent lire nos émotions et du coup nous mettre en harmonie avec nos propres émotions et nous faire comprendre aussi que l'émotion qu'on ressent, c'est une émotion du passé qu'il faut laisser de côté, ou une émotion de visualisation, de projection dans le futur. Et du coup, ils nous ramènent vraiment à l'émotion du présent. Quelle est-elle là en ce moment, cette émotion du présent? Donc c'est aussi comme s'ils étaient tout heureux d'avoir acquis ce nouveau corps et qu'ils mettaient également tout là-dedans. Et j'ai vraiment l'impression qu'en tant qu'humain, c'est un petit peu ça, c'est waouh, on a un nouveau corps, nous on a un corps mental, et puis on s'est mis à fond là-dedans. Et puis du coup, on arrive à avoir des soucis d'être tellement là-dedans et tellement en plus dans la partie du mental masculin qu'on se perd, qu'on perd de vue justement nos émotions, qu'on perd de vue notre corps et parfois qu'on perd de vue notre énergie. Tout ça, c'est comme si des fois on ne les ressentait pas. Je suis quelqu'un qui était très 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 mental pendant très longtemps et j'ai vraiment un travail à faire encore maintenant sur les émotions. Et j'ai perdu aussi longtemps de vue mon propre corps, tout simplement de prendre soin de soi et d'habiter son corps, tout simplement. On est tellement dans le mental, tellement dans ce nouveau corps mental, qu'on en oublierait les autres. Or, il faut vraiment trouver un équilibre, une harmonie pour habiter dans ces quatre corps, et en plus d'habiter dans les parts masculines et féminines de tous ces corps-là. Donc, il y a du boulot, mais c'est pas parce que du coup on a cette super nouvelle capacité du mental qu'il faut voilà totalement oublier le reste. Alors le souci en plus, nous en tant qu'humains, c'est qu'on a un petit truc en plus quand même, en plus que le mental, ouais youpidou, c'est qu'on a le libre arbitre. C'est une capacité que là aussi nous sommes les seuls à avoir. Parce que on va retourner au niveau des animaux, les animaux, eux, sont poussés à agir par du coup leurs émotions et puis leurs instincts. Ils remplissent toujours un besoin. Donc une action remplit un besoin. Quand on dresse un animal, qu'on l'éduque, on va soit agir en positif ou en négatif, peu importe, parce que du coup, il va toujours y avoir ils vont agir, ils vont avoir un comportement, soit pour enlever le négatif qu'on leur donne, soit pour obtenir quelque chose de positif, ce qui est souvent de la nourriture. Donc ils vont vraiment agir par leurs instincts. Pour nous humains, c'est différent. Nous ne sommes pas seulement poussés par nos instincts et nos intuitions, nous pouvons aussi choisir où aller et en fait choisir de faire pas que le bien, pas que nos émotions, peuvent choisir aussi de faire le mal, rien que pour expérimenter ce qu'est le mal finalement. Ce qu'un animal, lui, ne peut pas faire. Il peut faire des bêtises, des accidents, mais jamais par projection. Donc on ne peut pas dire qu'il fait le mal, parce que nous, du coup, on est capable de projeter pour pouvoir faire une action mauvaise. Alors, ça ne veut pas dire que les animaux sont pas intelligents, parce que du coup, ils savent toujours quoi faire pour trouver un paquet de croquettes qu'on a bien caché, hein, mais ils ne peuvent pas projeter de faire un vol de croquettes, par exemple. Ils vont suivre leur instinct, ils vont sentir qu'il y a quelque chose, donc ils vont suivre ses envies, et finalement, on en revient à la même chose, c'est que du coup, c'est au présent. Même si le paquet de croquettes, il est très très bien caché, ils vont sentir, en passant à côté, là maintenant, au présent, qu'il y a quelque chose dont ils ont envie. Donc, nous sommes les seuls justement à pouvoir nous projeter dans le passé et ressasser comme ça, ou dans le futur, pour organiser, ou parfois, parce que nous avons le libre arbitre, et être persuadés que, on sera déçu par avance. Ça aussi, ça fait partie des seules choses que nos visualisations peuvent nous donner. C'est partir en se disant, de toute façon, ce sera un échec. C'est typiquement humain, là aussi. Donc, nous pouvons faire appel à des émotions qui ne sont plus là, ou plutôt qui ne sont plus en accord avec un fait qui, lui, n'est plus là, le fait n'est plus là, ou qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore venu. Donc, nous ressentons beaucoup trop d'émotions, beaucoup, beaucoup trop souvent, alors que l'animal, lui, ne va pas ressentir, il ne va pas ressentir, il est dans le présent tout le temps. Et c'est pour ça qu'on va nous dire justement de calmer notre mental, qui est en fait un super outil, véritablement, mais toutes les émotions qu'il va envoyer à notre corps, à notre corps émotionnel, n'est pas fait pour. Enfin, notre corps, en fait, n'est pas fait pour les subir, comme si c'était notre présent. Parce que lui, on ne lui a pas appris le passé, le futur, etc. Lui, notre corps, il va avoir l'impression que s'il y a cette émotion, c'est qu'elle est là maintenant, c'est qu'il y a un manque là maintenant, et qu'il y a du coup un stress. Si on est déçu par avance ou si on ressasse le passé, ça veut dire qu'il y a un stress au moment présent. Un stress à combattre. Parce que du coup, on le met dans une situation délicate, anxiogène pour lui. Et c'est un peu comme si on était dans un présent continu de souffrance. Alors que ce n'est pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas continuellement en souffrance. Si on se met là au présent, même si on a eu une journée merdique la veille, là maintenant, si on y pense maintenant, on est avec notre petite tasse de café, il est super agréable, peut-être même un petit peu de soleil. Finalement, ce moment présent là n'est pas un moment de souffrance, mais parce que du coup on se projette dans le passé, on arrive à souffrir. Et c'est peut-être justement ce qui fait aussi que nous sommes l'espèce la plus malade sur Terre, peut-être. Les animaux, en tout cas les animaux sauvages, hein, eux sont rarement malades, pardon. Ils ont peut-être des parasites, c'est souvent d'ailleurs le cas. Mais quand l'humain est loin de lui, il faudrait se renseigner un petit peu, par exemple, je sais pas, sur les ours polaires pour voir les maladies qu'ils ont. Ça pourrait être très intéressant de voir ça. En tout cas, bref, nous avons un bien précieux qui est le mental et il nous permet de nous projeter et aussi de rêver. D'ailleurs, les animaux peuvent rêver aussi, mais je ne crois pas qu'ils s'en souviennent, en tout cas au réveil. Alors, c'est une perche pour tout doucement nous emmener sur la voie des rêves. Et parlons-en de ces rêves. Ça reste quand même quelque chose, même si on est habitué, hein, dans notre vie, ça reste toujours très mystérieux. Des fois, on se réveille, on se dit, mais qu'est-ce que tout ça voulait bien dire? La science en a fait un objet d'étude, mais il n'a pas réussi à percer justement cette aura de mystère. On n'en sait plus parce que du coup, au niveau neurologique, on sait maintenant ce qu'il se passe pendant la phase de rêve, quelles sont les zones du cerveau qui sont concernées, qui rentrent en jeu, dans quelle phase de sommeil aussi on va rêver, etc. Mais la science qui a vraiment étudié le rêve, c'est la psychologie des profondeurs, la psychanalyse, qui elle en fait a étudié le langage des rêves et le fait que certains rêves vont agir comme des baumes, des guérisseurs de l'esprit. Les rêves et leur analyse sont traités pour aider les patients en souffrance, par exemple de schizophrénie, hein, et d'autres maladies mentales. C'est vraiment utilisé comme thérapie. On utilise le rêve, outil personnel de cette personne, pour aider la personne à retrouver une harmonie, à retrouver la lumière. D'après Freud et Jung, hein, ces visions viendraient de notre inconscient, qu'il soit collectif ou personnel, et seraient, comme je le disais, des outils véritables pour aller vers le chemin de la guérison. Plus ou moins rapidement, ça dépend bien entendu des cas. Et j'aimerais faire noter qu'il est très très intéressant dans les travaux de Marie-Louise von Franz, qui était une proche collaboratrice en fait de Jung, qui a étudié les rêves des criminels en prison. Et quand je dis criminels, c'est vraiment des tueurs qui n'éprouvaient aucune culpabilité pour leurs actes. Et en fait, ceci, ce qui est vraiment très étonnant, c'est qu'ils ne faisaient que de beaux et magnifiques rêves, d'une grande douceur. Et c'est aussi pour ça que la jeune fille, finalement, du conte, risque d'être coincée dans ce monde de rêves où elle peut trouver une espèce de belle compensation à ses traumatismes et choisir d'y rester. Parfois, nos visions sont plus belles que notre réalité. Mais comme je le disais, nous sommes des créatures créatrices et nous ne devons pas oublier que notre humanité fait de nous des incarnateurs de ces visions. Et il s'agit de ramener la beauté dans notre petit coin du monde finalement, de visualiser la beauté et puis de la ramener et de la créer ici. Inutile de chercher à ce que le monde entier soit en parfaite adéquation avec nos visions de beauté, ça, ce n'est finalement pas notre affaire. Ce serait une magnifique, absolument prodigieuse, belle conséquence des choses, naturellement, mais voilà, nous devons faire notre part à nous, notre part personnelle, notre petite part de colibri, comme on dit. Et un petit pas, c'est toujours un petit pas. L'inconscient est comme un participant du coup actif de notre vie, et en particulier de notre évolution. Et il nous enverrait comme ça dans son sillage, dans son langage à lui, plein de symboles pour nous orienter vers une guérison plutôt à gauche, plutôt à droite, etc. Et il existe de nombreux types de rêves différents que la science a décortiqués et a classés, ce qu'elle aime bien faire, hein. Les a séparés, il y a ceux-là qu'on utilise pour réorganiser tous les dossiers de la journée, pour mieux mémoriser, pour comprendre, etc. Mais les sciences neurologiques avouent que tous les rêves ne se rangent pas dans cette super catégorie très scientifique. Et le rêve garde, comme je le disais, cette aura mystérieuse, avec ce langage mystérieux qui n'appartient qu'à lui, qui fait de symboles. Et quand on analyse les rêves, on peut se rendre compte que on arrive à comprendre certaines choses, et le reste, impossible, même si on essaye vraiment, même si on utilise d'autres ressources, qu'on en parle à d'autres. Ça reste mystérieux et parfois c'est des années plus tard, quand on retombe sur ce rêve, qu'on comprend les choses. N'est-ce pas vraiment mystérieux et incroyable? En tout cas, le fait de partager dans les cultures chamaniques, hein, nos rêves ou nos visions, c'est quelque chose qui est vraiment pris très très au sérieux, qui est vraiment quelque chose d'important. Et c'est comme un petit rituel du matin, si on veut, les familles à l'intérieur parlaient de leurs rêves et essayaient de comprendre en groupe les significations, parce que du coup, nous sommes tous avec une expérience différente, avec des visions différentes, et nous comprenons certains symboles, d'autres moins, et les autres, comme ça, peuvent remplir les pages blanches de nos rêves. Et pourquoi pas, tiens, en faire également un petit rituel, le petit rituel du petit déjeuner, où tout le monde dans la famille, notamment les enfants, qui adorent faire ça, racontent leurs rêves. Et c'est déjà passionnant, parce que du coup, ça nous livre une partie de la personne qu'on ne connaissait pas. Et ça devient vite une habitude, tellement c'est passionnant, justement, tellement c'est nourrissant, autant qu'un petit déjeuner. Et qu'on établit une connexion très intime, hein, puisqu'on échange le fond de nos âmes, ce qui fait quelque chose de très, très, très personnel, finalement. Et ce que j'aimerais également vous orienter, c'est de noter vos rêves. Alors, si vous avez fait déjà des voyages chamaniques avec moi, je dis toujours absolument après, hop, notez le plus rapidement possible ce que vous avez vu, parce que vous allez le perdre. Et les rêves, c'est vraiment ça. C'est la conscience qui prend le dessus et on met un nuage sur des parties. On a vu que le langage du rêve, c'est symbolique. Donc si parfois on oublie un symbole, c'est comme si on décousait tout le tricot, toute la trame perd son contenant, parce qu'il manque une chose. Donc c'est pour ça qu'il faut noter tout de suite, le plus rapidement possible, son rêve. Et pour cela, le mieux, c'est d'avoir un petit journal, un petit carnet qui est vraiment dédié à ce travail, à mettre sur notre table de nuit, et essayer de faire ça, la première chose qu'on fait le matin. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal généralement. Je n'arrive à noter qu'après tout ce que je dois faire en tant que maman, Ça arrive vers 10h, 11h, donc j'ai eu le temps de perdre certaines informations. Parfois, si je me réveille tôt, j'ai le temps de tout noter. Mais c'est pas si facile que ça et je comprends tout à fait qu'on peut être réticent à le faire. Ensuite, vous pouvez me dire, mais moi, je ne rêve pas. Ou en tout cas, dès que je me réveille, je ne me souviens de rien, c'est comme si je ne rêvais pas. Alors en effet, si on n'a pas pris l'habitude de se souvenir, parce que je dis habitude, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Et c'est quelque chose qu'on acquiert progressivement. C'est pour ça que j'utilise le mot habitude. C'est que à partir du moment où on a incarné, qu'il est dédié, qu'il est déjà mis à côté de nous, ça veut dire qu'on a l'intention comme ça de progresser grâce à nos rêves et qu'on a l'intention de se souvenir d'eux. Alors qu'avant, on a peut-être pu vivre notre vie sans s'en inquiéter, c'est ah, c'est un très beau rêve, etc. C'est marrant, on le raconte de temps en temps, et sans plus. Et du coup, le conscient va totalement écarter cette phase bizarre hein, de sa vie finalement, de cette autre vie qui est la vie de l'inconscient. Et du coup, pour récupérer ces informations, il va falloir prendre un petit peu de temps. On n'est pas obligé non plus de vouloir absolument tout noter du rêve et se dire, ah non, mais j'ai toute cette partie dont je ne me souviens pas et je sais que c'était une partie énorme, autant que je note pas. Le but, c'est des fois on se réveille avec une émotion, mais on se souvient de rien, et bien on note cette émotion, ce que ça nous fait ressentir. C'est déjà un travail en soi, c'est déjà quelque chose qui va dans ce réapprentissage, dans ces retrouvailles avec les rêves. Donc, comme je disais, le simple fait d'avoir un carnet à côté nous permet justement de mettre cette intention de travail avec le monde du rêve. Et très vite, en moins d'une semaine, rien que de dormir à côté d'un tel carnet, je peux vous garantir que vous allez commencer à vous souvenir des rêves de plus en plus. Ensuite, il est impératif d'essayer d'analyser, même si on n'arrive pas à tout comprendre le rêve, de prendre au moins deux, trois symboles et d'essayer de les comprendre. On ne comprendra pas tout. Ça, c'est pas grave, c'est aussi quelque chose qui va se travailler avec l'habitude, c'est-à-dire que on va être nous-mêmes des dictionnaires de symboles. Si par exemple on rêve de serpent, on va chercher tout ce que représente le symbole du serpent, et comme ça, 2 ans plus tard, quand on reviendra rêver avec un serpent, bah, ça nous posera plus le moindre problème, on saura si c'est telle signification ou telle autre en fonction du reste. Donc c'est une acquisition, un apprentissage tout simplement d'analyser nos rêves. Nous ne sommes pas des professionnels de l'analyse du rêve. Voilà, nous commençons. Ou alors on sait déjà un petit peu quelque chose, parce que du coup, je sais que les personnes qui prennent cette classe ont fait déjà pas mal de travail et vous avez certainement déjà du vocabulaire symbolique en vous, ça c'est même certain. Mais en tout cas, voilà, ne pas avoir trop de déceptions ou trop d'attentes trop élevées tout de suite. Le but, c'est de commencer un travail, de récupérer comme ça un ou deux symboles, d'essayer de voir en quoi ça pourrait nous aider. Et ce qui est très intéressant ensuite, plus tard, c'est en ayant cette expérience de revenir sur les anciens rêves. Donc c'est pour ça aussi que d'avoir tout dans un même carnet, c'est beaucoup plus simple pour retrouver. Et de tout comprendre. Ah ben tiens, et puis finalement, quand on regarde notre vie, des choses qui se sont passées, ben on comprend que c'est exactement, par exemple, une épiphanie qu'on a pu avoir 4 mois plus tard, qui nous était annoncée dans le rêve, de commencer à travailler là-dessus pour nous aider. Et puis on a mis du temps, mais 4 mois plus tard, on travaille finalement dessus, et bam, on a compris un nouveau chapitre de notre vie où on a fait un travail d'introspection qui a guéri certaines choses, que le rêve nous envoyait déjà vers cette piste-là. Donc c'est vraiment quelque chose de très impressionnant comme ça, de travailler avec les contenus de l'inconscient qui a accès, lui, à des zones mystérieuses de notre être et également de l'inconscient collectif qui est vraiment, mais alors là, un concept qui nous échappe totalement, du fait que l'humanité partage un inconscient dans lequel on peut puiser, dans lequel on peut rechercher et qui nous guide comme ça vers la guérison. C'est absolument incroyable. Et en tant que conscient, on peut y aller, mais c'est très très compliqué parce qu'il y a énormément de choses. Notre inconscient finalement va nous faciliter la tâche. il va aller puiser ce qu'il faut à l'endroit où il faut exactement. Donc il bosse aussi. Hein. Il bosse pas uniquement lors de notre rêve, mais il voit notre conscience, il voit ce qu'on est en train de faire. Et c'est un peu comme si c'était notre assistant personnel, mais un assistant un petit peu sourd et muet comme ça, qui peut simplement partager avec nous en langage des signes, et que nous, bah, du coup, on connaît pas du tout ce langage. Et que c'est un assistant particulièrement efficace et particulièrement passionné par nous, par notre guérison propre. C'est absolument incroyable. Et en apprenant progressivement ce langage des signes, ce langage symbolique, on arrive de mieux en mieux comprendre à la fois tout son travail qu'il fait pour nous, donc avoir de la gratitude pour une part de nous-mêmes, et de la justesse dans ce qu'il est capable de cibler et de ramener comme ça dans cet océan d'inconscient collectif qui nous submerge tellement il a de profondeur et de ramification, et de rechercher pile poil ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Alors je suis très 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 heureuse que nous puissions faire ce travail ensemble. Je vais vraiment essayer de pouvoir noter mes rêves tout de suite au réveil pour garder le maximum de choses. Donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir faire ce travail là ensemble avec vous. Et dernière petite chose pour nous aider à faire le travail, c'est de souligner comme ça les mots, une fois qu'on a tout rédigé, de souligner les mots importants qui nous paraissent importants ou les symboles importants. Ça peut être aussi, comme je disais, une émotion importante qui est surgie à ce moment-là. Et ce que j'aime beaucoup faire, en tout cas avec les visions, de temps en temps avec les rêves, mais c'est vrai que je le fais beaucoup moins souvent, c'est d'utiliser tous ces mots soulignés pour, peu importe de les mélanger, de changer les places, parce qu'on sait très bien que le rêve ne nous donne pas des choses d'un point de vue chronologique, c'est après quand on se réveille qu'on va essayer de remettre les choses en ordre, que le rêve, lui, va nous donner alors n'importe quoi au niveau du lieu, au niveau du temps. Mais en tout cas, on peut faire pareil, on peut mélanger, peu importe, et d'utiliser les termes qui nous paraissent les plus importants, et de faire un espèce de petit poème. Alors moi, je fais des haïkus, donc c'est vraiment, vous savez, des poèmes très 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 courts. Par exemple, le ciel bleu, la nature s'éveille, le silence. Voilà. Donc il y a quoi ? Il y a 5 mots. Mais rien qu'avec ça, je vous ai emmené quelque part. Et vous pouvez donc faire ce haïku en fonction de votre rêve, et comme ça vous ramener directement dans le rêve et voir si vous avez une nouvelle compréhension, s'il se passe quelque chose, ou tout simplement se remémorer plus tard des rêves que vous pensez avoir une très très grande valeur. C'est un peu un acte de gratitude, c'en étant d'ailleurs un acte créateur. Donc on part d'une vision, comme je le disais, de créateur, de créature créatrice, on en fait quelque chose, on l'incarne sous forme de texte et de mots, et donc on incarne finalement notre rêve, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, tout simplement, c'est une cérémonie pour vraiment célébrer la puissance et la valeur de nos rêves. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio en extérieur avec plein de bruit. J'espère que vous avez pu profiter de certaines belles choses. Et je vous embrasse. J'espère que vous passerez un très bon mois d'avril. C'est vraiment un mois très joyeux où on commence justement à aller dehors, à s'ouvrir. Et ça peut paraître très paradoxal de s'extérioriser au mois d'avril alors qu'on va travailler sur nos rêves. Finalement, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être envie de faire en hiver, un travail d'intérieur, et pourtant vous allez voir, ça a une richesse très très forte avec notre extérieur. Il y a une harmonie qui se crée et qui donne une richesse dans tout ce qu'on fait, dans notre réalité, si on peut dire. Voilà, je vous embrasse et je vais faire avec vous l'effort de noter tous ces rêves au moins pendant un mois, jusqu'à avoir l'habitude parfaite, et ensuite de le faire sans même y penser. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour la suite. À très vite !